Merci, Madame la Présidente. Ce moment est un moment de rencontre, voulu, désiré, puisque nous sommes allés vers Bernard Stiegler en lui disant « Qui aimeriez-vous rencontrer ?» Et Rudy Bohr est ici en réponse à cette question que nous avons posée à Bernard Stiegler. Et nous leur sommes vraiment très reconnaissants d'être là tous deux ce soir. C'est un moment de rencontre entre deux personnes qui, dans leur travail et par leur travail, posent la question du modèle culturel et industriel dans lequel nous vivons, et donc de notre milieu symbolique, de notre Bildung, hein, de notre civilisation. Il faut entendre en filigrane du titre « Changer le modèle industriel », le projet d'un entretien sur le milieu symbolique que véhicule ce modèle dans lequel nous nous trouvons, et un entretien sur son inadéquation avec le nouveau modèle technique qui s'est développé depuis des années et avec la réalité d'une demande de sortie du statut de consommateur ou de cette dichotomie producteur-consommateur. Donc à partir de la réflexion que l'un et l'autre mènent sur le singulier et le collectif, sur le producteur et le récepteur, voire même sur le prescripteur, le commanditaire, il s'agit peut-être même d'explorer ce qui pourrait être une politique industrielle de l'agriculture. Nous ancrons donc ce travail ce soir dans le point de départ que nous offre les travaux de réflexion de Bernard Stiegler autour notamment de son livre « Constituer l'Europe » qui est paru en 2005, mais aussi de son dernier ouvrage, d'un de ses derniers ouvrages « Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel » tous deux parus chez « Constituer l'Europe » paru chez Galilée et « Réenchanter le monde » paru chez Flammarion, ainsi que la télécratie contre la démocratie. Et réflexion de Rudy Bohr, qui se traduit dans l'espace qui nous est familier, Cité internationale, La Villette, Beaubourg, mais qui est aussi un travail qui prend la forme de publication sur le quotidien virtuel, 2002, sur l'identité des lieux, en 2004, aux éditions Pyramide, sur un livre absolument passionnant avec Pierre Legendre, La loi et ses conséquences visuelles, et au fond sur un ancrage aussi dans les villes, et cette urbanité européenne. Ce point de départ, je n'en dirai rien d'autre pour l'heure, au-delà de ce constat qui nous est commun, celui mentionné par Madame Lalumière, du déficit symbolique en Europe, et qui ne tient pas seulement aux structures européennes de représentation et de pouvoir, mais qui touche aux enjeux de civilisation. Et le design, ici, est bien, comme le dit Rudy Bohr, un outil de représentation d'un état de crise. Je le cite. Il participe de la réalité industrielle et culturelle. Il répond non seulement à un souci de fonctionnalité, mais engage pleinement le champ symbolique. Donc aux questions et propositions de Bernard Stiegler vont répondre celles de Rudy Bohr depuis des préoccupations qui, me semble-t-il, vous sont communes et dont je n'évoquerai que celles-ci. Quelles sont au fond les conditions d'un langage commun et d'un langage de la mise en commun vivre ensemble, né des technologies nouvelles et qui se libérerait, comme je le mentionnais, de la dichotomie producteur-consommateur qui, d'une certaine manière, engagerait, dégagerait ce dernier et l'engagerait vers une possibilité de participation. Alors, Madame Lalumière l'a dit, Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, vous dirigez le département du développement culturel au Centre Georges Pompidou, vous venez en voisin donc. Vous avez créé, vous dirigez l'Institut de recherche et d'innovation qui au fond est est un lieu tout à fait privilégié d'exploration de cette thématique du modèle industriel. Rudy Bauer, donc vous le savez, graphiste et designer, il a fondé en 1989 Intégral Rudy Bauer et Associés, qui est un lieu de, et un outil de travail dans ces domaines du graphisme et du design. Donc, votre champ d'activité se concentre principalement sur l'identité visuelle et la signalétique, mais bien sûr dans tout leur rapport à la norme et à la construction de la norme et à l'espace public. Vous avez créé un institut de recherche. Un institut de recherche de design qui s'appelle Design de Contexte à la Hochschule für Kunst.
C'est en anglais, Design de
Contexte. C'est vrai, je pensais allemand et du coup je n'ai pas pensé à l'anglais. Donc à la Hochschule für Kunst und Design de Zurich et vous en êtes le directeur. Alors, c'est un mano à mano, comme on dit dans le flamenco. Donc je vais d'abord donner la parole à Bernard Stiegler pour sa proposition, ensuite à Rudy Bauer, puis ils se répondront et vous répondront ou échangeront.
Bon, à mon tour, je vous remercie. Je vais remercier Madame Lumière. Je suis content de l'occasion de l'invitation de Gisèle Gasson-Béchaud de finalement continuer une discussion à laquelle Catherine Lalumière m'avait déjà invité il y a 2-3 mois au centre Wallonie-Bruxelles, en face du centre Jean-Pompidou, et dont le thème était la question de la culture dans la politique européenne. En fait, pour moi, cette intervention de ce soir est une poursuite, d'une certaine manière, de ce qui s'est dit au cours de cette journée qui s'est tenue au mois de décembre. Vous avez dit, Madame Lumière, tout à l'heure d'ailleurs, que les Européens étaient lassés de simplement devoir répondre au marché. Bon, je pense que la question du marché est centrale dans la discussion que nous avons aujourd'hui, de sa place. Je voulais remercier bien sûr Christiane Casson-Deschaux de son invitation et de l'occasion qu'elle m'a offerte d'inviter Rudy Bauer. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de discuter avec lui devant vous. Et donc je le remercie lui aussi beaucoup d'être venu, parce qu'il m'a fait l'effort de passer jusqu'à Paris, et ça je l'apprécie énormément, parce qu'il est très occupé, c'est du temps pris important, pas important. Évidemment, je le connais comme beaucoup de gens, comme une personnalité qui laisse des traces dans moi qu'on puisse dire, des traces qui en même temps doivent un peu s'effacer, laisser place finalement aux institutions ou à d'autres traces, hein, à d'autres traces. Mais je le connais aussi, y compris parce qu'un jour il m'a fait une invitation justement pour participer à une opération qui s'appelait Démocratie 2054, et j'ai été très très, je dois dire, impressionné par la qualité de sa réflexion et de son articulation entre son métier et la politique. La question de la démocratie et la question de l'Europe. Donc je me suis dit, lorsque la question des choses m'a suggéré de donner une carte blanche, comme on dit, pour inviter quelqu'un, je suis arrivé à proposer son nom. Alors, et pour parler d'une chose précise qui, je crois, nous intéresse tous les deux, c'est la question de l'industrie. Au centre de Wallonie-Bruxelles, fin décembre, nous disions il faut remettre. Avec cette citation que tout le monde fait aujourd'hui, si j'aurais commencé par la culture, enfin bon, cette citation qui paraît-il apocryphe, bon, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'elle ait été tellement incitée est un signe important. On se dit subitement, en fin de compte, peut-être qu'il fallait commencer le projet européen par la culture et non pas par le charbon et l'acier. C'est d'ailleurs plus compliqué que ça, le charbon acier, bien entendu, mais je rappelle les chapitres clichés. Et en effet, je crois que la culture est absolument fondamentale pour l'Europe, que la culture n'est pas un supplément d'âme, que la culture n'est pas un accessoire, que la culture n'est pas le 1% du budget national. La culture, c'est la vie. Et je pense que si l'Amérique du Nord est une grande puissance aujourd'hui, c'est parce qu'elle a commencé par la culture. Évidemment, avec il faut le dire, sans tout vouloir froisser nos très chers amis américains, aussi par un génocide. Mais la vie, l'histoire de l'humanité est très compliquée. En tout état de cause, l'Amérique du Nord s'est constituée, a constitué l'union de ces 48 États plus 2 par et pour lutter contre la guerre de sécession et ses effets ravageurs, par une politique culturelle d'affirmation, de symboles américains, notamment à travers le cinéma du western, notamment à travers à travers ce fameux film extraordinaire Naissance d'une nation, il est quand même absolument incroyable, le premier grand film américain s'appelle Naissance d'une nation. Et par un débat dont j'ai parlé dans plusieurs de mes livres, surtout dans l'un, qui s'appelle Le temps du cinéma, qui s'est tenu dans les années, au début du XXe siècle, et qui a fait dire en 1912 à un sénateur américain, en 1912, que l'avenir de l'Amérique c'était le cinéma. Alors qu'en France et en Europe, on considérait que c'était un truc de saltimbanque. Comme si les saltimbanques, d'ailleurs, étaient des gens méprisables, ce qui est loin d'être le cas. J'ai soutenu, moi, au centre de Wallonie-Bruxelles, que le cœur de la politique européenne devait être la culture. La question européenne, c'est d'abord la question culturelle. Mais je veux dire que, par ailleurs, aujourd'hui, dire cela, c'est dire aussi que la culture doit devenir le cœur de la politique industrielle. Et non seulement pour développer une politique des industries culturelles, ce que disait Ghislaine Glasson des Fauves à l'instant, et ce qui est tout à fait vrai, il faut que l'Amérique, que l'Europe, aujourd'hui, ait une politique des industries culturelles. Mais non pas pour mimer en plus mal les industries culturelles existantes aux États-Unis, en Inde, en Corée. Non, pour inventer une nouvelle industrie culturelle. Parce que nous sommes dans une mutation technologique énorme. Vous savez bien que Internet est en train, les jeunes générations par exemple, de faire que l'audience de la télévision chez moins de 15 ans est en dessous de 50%. Et les autres médias sont en train de remplacer. C'est une chance, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mais je dirais que surtout, le problème n'est pas simplement de développer une nouvelle politique des industries culturelles, c'est de développer une politique culturelle de l'industrie. Je veux dire par là que nous avons développé une industrie depuis le 19e siècle, surtout le 20e siècle, qui est devenue lentement mais sûrement anticulturelle. D'abord parce qu'elle repose sur la standardisation, la massification, l'homogénéisation, et que la culture, c'est la singularité, c'est la diversité, intrinsèquement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, cette situation qui a eu sa nécessité et qui a eu aussi ses bénéfices. Parce que je ne suis pas du tout en train de tenir un discours contre l'industrie, notamment, y compris l'industrie classique du 19e siècle, qu'on a pu l'industrie. Cette industrie a apporté énormément de bienfaits. Par exemple, ce micro dans lequel je parle, cet appareil photo qui est en train de fonctionner, et ce qui fait que Libor a pu venir en TGV ou autrement, etc. Bon, tout ça, ce sont des bienfaits. Mais toute chose que l'homme fait a des côtés bénéfiques et des côtés, appelons-les d'un mot un peu archaïque maintenant, maléfiques. Disons mauvais. Il y a des moments où les bénéfices sont beaucoup plus importants que les maléfices. Donc on considère que les maléfices, ce sont des pertes et des profits, comme on dit, secondaires, regrettables, il faut diminuer les bénéfices. Et puis il y a un moment où parfois, les mauvais côtés prennent le dessus. Par rapport au modèle industriel dans lequel nous vivons depuis maintenant deux siècles, c'est le cas. Les mauvais côtés ont pris le dessus. Et je ne dis pas par rapport à l'industrie. D'abord parce que le modèle industriel dans lequel nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle n'est pas celui du début du XXe siècle, qui n'est pas du tout celui du XIXe siècle. Il n'y a pas un modèle industriel, il y a une série de modèles industriels. Mais aujourd'hui, nous devons entrer dans un nouveau modèle industriel, pour des raisons qui sont vous faites par exemple, nous savons que René Passet en France a été un des premiers économistes, avec l'économie vivant, à développer cette hypothèse que le système technique industriel issu de l'âge classique de l'industrie allait commencer à produire beaucoup plus de déchets, de problèmes, de toxicité que de bénéfices. À l'époque où il disait ça, ça semblait totalement à contre-courant de l'opinion publique. Aujourd'hui, tout le monde est angoissé par cette question. Ce n'est plus simplement une chose qu'on envisage, mais que tout le monde est obsédé par cette question. L'opération que Nicolas Hulot a faite en France, on en pense tout ce qu'on veut, mais le fait que ça ait marché, ça a quand même très bien marché, vient du fait qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques, de Jean-Marie Le Pen, Marie-Georges Buffet, en passant par Nicolas Sarkozy, c'est vraiment pas grave, savent que tous les Français sont obsédés par cette question. C'est que ce sont des questions extrêmement graves, prégnantes. Et comme vous le savez, M. Bush maintenant a admis que les questions de climat sont de vraies questions. Et qu'il faut commencer à réfléchir à abandonner le modèle de la pétrochimie comme cœur de l'industrie. Donc il y a la nécessité de changement de modèle industriel est en réalité actée par tous, mais pensée par personne. Elle est actée dans les faits, mais personne n'en discute. Dans le débat de la campagne présidentielle française, par exemple, il n'y a rien sur ce sujet. On parle d'Airbus, etc., mais Airbus, c'est pas une industrie. Et il y a là quelque chose d'étrange qui fait aussi que, je crois, que l'Europe, nous en parlions avec Catherine Lalumière juste là maintenant, a une responsabilité historique. Pourquoi est-ce que l'Europe a une responsabilité historique? C'est parce que l'industrie est née en Europe. L'industrie, ça vient de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la France. Les grandes conceptions industrielles sont nées en Angleterre, comme vous savez, avec le savoir, disons, des Lumières, issu du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'est un processus qu'on appelle la modernisation qui s'est développé d'abord dans l'Europe occidentale, et puis qui a migré avec la colonisation qui a été accélérée par cette industrialisation qui s'est mondialisée dès le 19e siècle, et le discours de la mondialisation qu'on pourrait bien tenir, c'est Karl Marx, commentateur de la vocation planétaire du capitalisme à travers l'industrie. Et aujourd'hui, s'il y a un continent qui est capable et qui est responsable plus que tout autre de repenser l'industrie, c'est l'Europe, parce que c'est elle qui l'a engendrée. Je parlais tout à l'heure de la Finlande et de Nokia. Je parlais de Nokia et de la Finlande parce que Nokia, c'est une entreprise qui s'est constituée en privilégiant une réflexion sur le design et la culture, entre autres choses. Nokia a exploité un brevet qui a été conçu en Europe et plus exactement en France, la norme GSM qui a été inventée au CNED, ici le Mundo, et que l'industrie française n'a pas exploité. Aujourd'hui, par exemple, le système du web et d'Internet, c'est quelque chose qui a été exploité, mis en œuvre de manière systématique par une politique américaine portée par William Clinton et Albert Gore, mais sur la base d'une inventivité européenne, et en l'occurrence, en grande partie, ARPANET, vous faites la moue, ARPANET était un réseau militaire, mais le système qui a permis la constitution d'un Internet civil, c'est Tim Berners-Lee, c'est à Genève, que ça s'est élaboré, et en Europe, MPEG, par exemple, la norme MPEG, les compressions d'images, enfin, toutes ces recherches, l'Europe a un capital intellectuel, technologique, scientifique absolument extraordinaire, qui est exploité malheureusement pas par l'Europe, mais par l'Amérique et maintenant par l'Asie. Donc l'Europe n'arrive pas à penser industriellement. Elle a un héritage scientifique, technologique, artistique, culturel, philosophique, extraordinaire, mais elle n'arrive pas à penser industriellement, alors qu'elle est à l'origine de cette industrie. Sauf que cette industrie, elle a ensuite migré, elle a passé de l'autre côté de l'Atlantique, elle a été requalifiée en Amérique du Nord, en particulier par Henry Ford et un certain nombre d'autres, et elle est revenue en Europe, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, via le plan Marshall et tout un... une opération qui passait par le cinéma et l'industrie culturelle, et on a vu déferler en Europe comme dans le reste du monde, The American Way of Life comme modèle industriel. Et bien ce modèle est épuisé. C'est lui qui produit des quantités de CO2 absolument intolérables maintenant, c'est lui qui constituent des problèmes de dysfonctionnement pathologique, d'obésité, d'anorexie, etc. C'est ce modèle qui repose sur une hyperproductivité, développant une hyperconsommation, qui est à bannir aujourd'hui. Il se trouve que, si je parlais de la Finlande tout à l'heure, c'était à cause de notre tiers, mais c'était aussi parce qu'en Finlande a été conçu par un jeune, ce qu'on appelait à l'époque un hacker, c'est-à-dire un passionné d'informatique, a été conçu par Linus Torvald, un système qui s'appelle le système Linux, qui est à la base, aujourd'hui, de ce qu'on appelle la communauté du logiciel libre, communauté technologique et industrielle, qui repose sur un tout autre modèle que l'opposition du producteur et du consommateur. Dans le monde du logiciel libre, il n'y a pas des producteurs et des consommateurs. Tous les gens qui utilisent le logiciel sont en position d'être des producteurs, exactement, d'être des concepteurs, de participer à l'évolution du logiciel. Ils ne sont pas en train de subir les prescriptions faites par l'industrie en amont sans savoir pourquoi on les leur prescrit via des campagnes de marketing. Ils participent étroitement à la production de leur monde. Cela, c'est ce qui a été rendu possible par le développement du réseau Internet. Et cela, c'est ce qui est en train de changer profondément l'univers industriel et la vie quotidienne des individus. Vous le savez sans doute, les microtechnologies sont en train de se développer, les objets communicants, demain ce seront les nanotechnologies, et on parle d'une informatique invasive, d'une informatique répandue absolument partout, informatique environnementale, on l'appelle aussi. Tous nos modes de vie vont être intégralement transformés par ces réseaux dans les années qui viennent. Ils ont déjà, ces réseaux, énormément changé nos jolies, puisque la part du commerce électronique est maintenant extrêmement importante. Nos enfants, ou nos petits-enfants, vivent maintenant énormément dans le réseau Internet, et ça n'est qu'à tout début. Et n'oubliez pas qu'Internet n'existe comme mode d'accès civil que depuis 15 ans. 15 ans, c'est absolument rien. Eh bien, l'espace de 15 ans, il a absolument bouleversé, y compris la vie politique. Et le discours de Madame Royal sur la démocratie participative est évidemment directement sous l'influence de ce phénomène. Qu'elle le dise ou pas, qu'elle le pense ou pas. Alors, ces questions, pour moi, sont absolument fondamentales, et je suis extrêmement frappé du fait que, à l'Europe, au niveau de la Commission européenne, on n'en discute pas. J'ai été extrêmement choqué un jour, j'ai déjà dit une fois en public, d'entendre monsieur Rocard déclarait oh, la politique culturelle, il faut laisser ça aux États membres, parce qu'il faut bien qu'ils aient quelque chose encore, hein, de quoi s'occuper. Je me suis dit, mais c'est stupéfiant d'entendre un discours pareil. Hein. Mais de la même manière, les blogs, Internet, tout ça, c'est des trucs d'Indiens. Comme on disait les Indiens quand j'étais jeune, c'est-à-dire les adolescents un petit peu, les Apaches, on les appelait les Apaches. C'est des trucs de marginaux. Non, c'est l'avenir industriel. Aujourd'hui, l'industrie de demain s'invente à travers ces réseaux. Il n'y a aucune réflexion prospective sérieuse de la Commission européenne là-dessus. Aucune. Bien que M. Barroso ait mis au cœur du projet européen la société de l'information. Il a mis au cœur ce discours, mais en même temps, il n'a pas du tout déclenché une réflexion sur ce que c'est. La société de l'information, je suis désolé de le dire, excusez-moi d'employer un mot comme ça, c'est un peu ringard comme expression. Ça fait déjà 15 ans que la Commission européenne a produit cette expression. On n'est plus dans la société de l'information. On est dans les technologies collaboratives, dont les logiciels libres, Linux et toutes ces démarches sont les précurseurs. Les technologies collaboratives, c'est ce qui permet de produire, je vais maintenant faire un peu de philosophie, de l'individuation psychique et collective. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Puisqu'on invite un philosophe, il faut qu'il parle de philosophie un petit peu. Dans Constituer l'Europe, le motif de l'honneur qu'on m'a fait de m'inviter ce soir, au départ en tout cas, j'ai commencé mon livre en disant l'unification continentale de l'Europe, c'est un processus d'individuation psychique et collective. Qu'est-ce que ça veut dire? L'individuation psychique et collective, c'est un concept qui a été élaboré par un très grand philosophe français, peu connu encore, mais qui commence à être très connu, qui s'appelle Gilbert Simon, très grand philosophe, physicien par ailleurs. Enfin, disons, spécialiste de physique, en particulier de cristallographie. Simondon a expliqué que les êtres humains sont des êtres à la fois psychiques et sociaux. Et on ne peut pas être psychique sans être social. Il n'y a pas d'un côté le psychique et de l'autre le social. Il n'y a pas d'un côté la psychologie et de l'autre la sociologie. Il y a un phénomène global qui s'appelle l'animation psychique et collective. Je ne peux m'individuer psychiquement que dans la mesure où je contribue à l'individuation, c'est-à-dire à l'évolution du social dans lequel je vis. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant, le logiciel libre. C'est que quand j'utilise un logiciel et que j'ai une idée pour le faire évoluer parce que je considère qu'une fonctionnalité n'est pas adaptée à ce que je fais, je propose à la communauté des utilisateurs de ce logiciel de dire, voilà l'idée que j'ai, faites-en ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit quelques lignes de code informatique pour pouvoir développer ça. Eh bien, la collectivité peut se réapproprier cette individuation psychique, c'est-à-dire l'individu qui a une idée, devient une idée collective, et du coup, ça crée une intelligence collective extraordinairement dynamique. Au sein de Georges Pompidou, où je viens de créer cet institut, nous avons réalisé un logiciel qui s'appelle Ligne de Temps. C'est un logiciel qui permet d'analyser des films. Nous avons réalisé ce logiciel en 4 mois. Parce que nous avons une version expérimentale, mais sur une version qui fonctionne très bien. Nous avons développé cette idée en réseau avec toute la communauté des développeurs des logiciels libres. Et c'est extraordinaire, ce sont des gens qui travaillent pour vous gratuitement. Quand j'ai créé l'association Ars Industrialis, parce que je suis président d'Ars Industrialis par ailleurs, et je tiens à le dire ici, parce que Ars Industrialis a été créé pour repenser l'Europe. C'est pour ça que nous avons créé cette association. Et puis un jour, j'allais voir l'Europe pour demander que l'Europe me donne un petit peu d'aide. Parce que nous faisons tout ça avec nos propres deniers, donc ça me coûte de l'argent, cette association, personnellement. Mais, quand nous avons fait Ars Industrialis, avec un site web, c'est comme ça que nous l'avons pensé, nous avons eu la surprise extraordinaire de voir nos textes, nos manifestes, nos articles, etc., traduits en italien, en espagnol, en néerlandais, en japonais et en chinois, par des gens dans notre pays qui sont venus à traduire comme ça spontanément, qui ont mis ça en ligne. Nous nous disions, nous allons avoir des frais de traduction incroyables si nous nous mondialisons, etc. Pas du tout, ce sont des gens qui ont traduit eux-mêmes. Wikipédia, vous en avez entendu parler, c'est une encyclopédie qui s'est développée. Eh bien, c'est développé par accident. Un jour, c'était une communauté scientifique américaine qui essayait en réseau de travailler pour faire une encyclopédie. Ils avaient mis une possibilité de modifier les textes, mais c'était normalement pour les rédacteurs. Ils ont oublié de rendre inaccessible au public. Et les gens se sont mis à modifier tout seuls. Et finalement, c'est comme ça qu'est né le concept de Wikipédia. Les gens veulent participer à l'invention de leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est pas gagner de l'argent, contrairement à ce que croyait Benjamin Franklin. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est exister. Et pour exister, il faut pouvoir transformer son monde. Alors la raison pour laquelle j'ai inventé Rudy Bohr, je vais vous dire maintenant, c'est parce qu'il a écrit ceci. J'aime relier la question du design à celle de la transformation. De plus en plus ouvertement et clairement tamé l'obligation de la transformation artificielle à des fins, par exemple, économiques ou politiques. On met même en place des statuts d'état d'urgence par stratégie électoraliste. Ce type de transformation artificielle, inutile ou presque, se voit aujourd'hui fortement surmédiatisé au point de placer dans l'ombre les transformations véritables, celles qui seraient profitables. Moteur ou conséquence, le design est généralement présent lorsque l'une de ces transformations nécessite une visibilité. Il faut redéfinir la qualité du design, non pas uniquement par ses critères visuels, plastiques, sémantiques, fonctionnels, voire technologiques, mais bien en associant à ceci l'analyse des effets directs et indirects de la transformation proposée. Le design, qu'est-ce que c'est? Alors, si j'ai invité un débat, c'est notamment ce qui a écrit ça, et ce que j'appelais tout à l'heure les processus d'individuation psychologique, ce sont des processus de transformation. Lorsque je m'individue psychiquement, je me transforme. Lorsque j'élève mes enfants, c'est-à-dire que je les aide à s'individuer et je les transforme. L'être humain est un être en transformation permanente et intégrale. Il peut y compris se transformer le visage, se faire pousser des cornes, comme une artiste bien connue, j'arrive plus à trouver son nom, là, Orlan. L'homme est dans la métamorphose. Si Ovid a écrit des métamorphoses, c'est parce qu'il a posé ce problème. Et cette métamorphose, c'est d'abord une métamorphose par la technique, mais pas simplement par la technique, par le langage en ce moment. Je parle pour essayer de vous transformer. C'est-à-dire de faire que vos esprits qui sont plastiques adoptent ou rejettent ce que je dis, mais en tout cas réagissent à ce que je dis. Cette transformation, avec l'industrie, elle est devenue un processus absolument colossal, ultra rapide et piloté par le capital. Comprenez-moi bien, je ne m'en prends pas au capitalisme ici. C'est un état de fait. Après, on peut, j'ai beaucoup combattu le capitalisme personnellement, mais on peut s'en prendre au capitalisme ou pas, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. J'ai des idées sur la question, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera tout à l'heure. Mais ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, qu'il est un état de fait que nous vivons dans une société industrielle et capitaliste, et que cette société est une société d'hyper-transformation et d'accélération permanente de la transformation. Le problème, c'est que cette transformation, elle a reposé jusqu'à maintenant sur une opposition. Une opposition qui consiste à faire en sorte que d'un côté on va mettre des producteurs, de l'autre côté des consommateurs. Et cette opposition, elle s'est faite sur la base d'une destruction progressive des savoirs et des producteurs et des consommateurs. La productivité industrielle repose sur le fait que le savoir du producteur, et en particulier au départ de l'ouvrier, est extrait de l'ouvrier, est formalisé, est mise dans une machine qui fait que l'ouvrier n'est plus un ouvrier, mais un prolétaire, c'est-à-dire un individu qui n'a plus de savoir, qui n'a plus qu'une force de travail, comme le disait Karl Marx. Et donc, il n'existe plus par le travail. Il n'est plus capable que d'une chose, c'est d'aller travailler pour renouveler son pouvoir d'achat. On dirait aujourd'hui, avant, on aurait sa force de travail. Et alors maintenant, on dit son pouvoir d'achat parce que maintenant, on veut qu'il soit un consommateur, c'est-à-dire qu'il fasse tourner la machine économique. En plus d'être un producteur, qu'il devienne un consommateur. Et comme consommateur, on va être privé de ses savoir-vivre. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ce n'est plus vous qui faites la cuisine, les plats cuisinés font la cuisine pour vous, ou les services vous apportent des pizzas à domicile. Ce n'est plus vous qui éduquez vos enfants, il y a les sociétés qui vont s'occuper de ça pour vous. Vos parents sont malades, vous ne vous inquiétez pas, il y a les sociétés de services qui vont s'occuper d'eux, qui même les enterreront, et à la limite, iront à leurs obsèques dans une classe. C'est ça le problème du symbolique. Mais vous savez qu'on en est presque là. Ça s'appelle la délégation. Alors, on vous envoie en vacances, on s'occupe de tout, et on intègre les bénéfices sur les transports aériens, sur les hôtels, sur etc. Et on produit énormément de CO2 au passage, parce qu'on crée des voyages où on vous envoie très loin pour retrouver quoi ? La même chose que ce que vous connaissez, puisque vous retrouvez exactement les mêmes enseignes, le même marketing, le même design, etc., etc. Cet état de fait que je présente d'une manière un peu caricaturale, hein, mais pas tant que ça. C'est ce qui s'est développé finalement sous le nom de ce qu'on appelle maintenant l'industrie des services. Tout en disant que l'Europe n'a plus besoin d'une politique industrielle, de toute façon l'industrie est partie en Chine, en Inde. Sauf qu'on oublie que ces services sont eux aussi industriels. Ce sont des industries. En plus, c'est pas vrai que les industries sont parties en Chine, en Inde. Il y a encore beaucoup d'industries en Europe, et il y en a encore pour longtemps. Mais dans tous les cas, l'industrie, ça n'est pas simplement la transformation de la matière, c'est la transformation des modes de vie. Fondamentalement, l'industrie transforme les modes de vie. Par exemple, le développement de la bicyclette, ça a transformé le mode de vie des gens en matière de déplacement. L'adoption des pâtes dentifrices, qui nous paraissent une chose évidente aujourd'hui, une des premières choses que nous faisons à nos enfants, c'est de se laver les dents. Eh bien, n'oubliez jamais qu'au début du 19e siècle, ça n'existait pas la brosse à dents, dentifrice, etc. Et tout ça, ce sont des changements de mode de vie qui se sont produits, qu'on appelle l'hygiène dentaire, en l'occurrence, pour ce qui concerne le dentifrice. Mais ça suppose d'abord une industrie des pâtes dentifrices et des brosses à dents, que Stark a investi. Il a commis un geste de design, je dirais, d'une époque, à mon avis, pour moi, passée, quant au design. Pourquoi est-ce que j'ai invité un designer comme Rudy Bohr? Parce que je crois que ce modèle industriel qui met d'un côté les producteurs, de l'autre côté les consommateurs, est caduque. C'est fini. Évidemment, il va se développer encore très longtemps, parce que les choses caduques durent longtemps. Mais l'avenir n'est plus là. L'avenir est aux peuples qui sauront produire un nouveau modèle qui associera étroitement ce que je n'appellerai plus les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre, mais les destinateurs d'un côté et les destinataires de l'autre. Si les enfants sont si présents sur Internet, parfois pour se livrer à des choses qu'on peut regretter, mais c'est parce qu'ils sont actifs sur Internet, ils ne sont pas passifs. Et qu'aujourd'hui, les individus, dans tous les domaines, veulent redevenir actifs, veulent redevenir producteurs de leur monde, veulent contribuer à la transformation de leur monde. C'était impossible dans le modèle industriel classique, issu du 19e siècle et rénové par Ford et un certain nombre d'autres au 20e siècle, notamment avec le design. Pourquoi est-ce que le design est apparu? Parce qu'il fallait produire du désir sur les objets industriels. Les objets industriels étaient sans âme. Ils étaient considérés comme tels. Donc il fallait les habiller pour donner une désirabilité de l'objet. Le problème, c'est que l'exploitation industrielle du désir a fini par détruire le désir lui-même. Aujourd'hui, on est confronté à un mal-être du consommateur, qui consomme d'autant plus qu'il est mal, d'ailleurs. Parce que la consommation ne diminue pas, elle augmente. Mais elle augmente en produisant du mal-être. C'est ce que j'appelle la consommation malheureuse. Il y a eu une consommation heureuse, moi j'ai connu ça, dans les 30 glorieuses, la jeunesse c'était la consommation heureuse. Aujourd'hui la consommation est malheureuse, et en plus, elle se sent coupable. Parce qu'elle se dit, je pollue, je compromets l'avenir de mes enfants, je perturbe mes voisins, etc. Donc il y a un gros problème. Il se trouve qu'aujourd'hui, une technologie nouvelle, parce que l'industrie suppose une technologie, est apparue, qui est une technologie logicielle, qui est une technologie intellectuelle, qui est une technologie d'information, de communication, qui permet de développer des modèles tout à fait différents, qui produit de la plus-value. Et cette activité du logiciel libre produit beaucoup de business, cette plus-value. Il y a des gens qui ont fait des fortunes. Et il y a beaucoup d'utilité sociale qui ressort de cela. Mais c'est un autre modèle que le modèle production-consommation. Alors moi, je crois que ce modèle, il est généralisable à toutes sortes d'autres activités industrielles, et que de plus en plus, c'est ce que les gens voudront voir se développer. Et je crois que cela suppose de repenser le design et le rôle du design. L'année dernière, j'ai été invité par M. Reynaud et M. Pradel à l'École des Arts Décoratifs à faire un cours de philosophie aux étudiants de l'École des Arts Déco. Et finalement, j'ai décidé de faire un cours sur le design qui s'adressait à tous les étudiants, pas simplement aux designers, aux Arts Déco, il y a des vidéastes, il y a des stylistes, il y a des artistes graphistes, il y a des spécialistes de l'espace, des architectes, hein. Ça s'adressait à toute la promotion de troisième année. Mais je leur disais, en fait, le cœur de votre activité aujourd'hui, c'est le design. Qui que vous soyez, même si vous êtes des artistes, pas des designers. Qu'est-ce que c'est que le design? C'est la conception. Aujourd'hui, si vous êtes des artistes, vous devez repenser les processus de transformation. Un artiste, c'est un transformateur. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qui est Picasso, par exemple? Qui est Jean-Luc Godard? Qui est Stéphane Mallarmé? Ce sont des gens qui ont changé la façon de regarder, ou d'entendre, ou de parler. Quand on est passé par 20 ans ou 30 ans d'histoire de Picasso, on ne voit plus le monde de la même manière. C'est absolument évident. Au début, c'est rejeté. Il y a encore des âmes pour dire que c'est un âme qui a peint le Picasso. Il y a encore des gens qui sont capables. Et quand je dis des âmes, c'est un peu méchant, mais ça. C'est un peu idiot, même. Ce ne sont pas des âmes. Ce sont des gens qui n'ont pas encore intégré ça. Mais quand on vit dans un milieu urbain, aujourd'hui, on sait très bien que Picasso a changé le fonctionnement de l'œil. Et c'est ce que disait Manet. Leur œil se fera. Quand on parlait de résistance des critiques classiques et académiques à l'art moderne naissant à travers Manet, ils répondaient, leur œil se fera. Parce que l'œil, ça se transforme. Et l'artiste, ça transforme. L'industrie aussi se transforme. Aujourd'hui, il faut absolument rapprocher la culture et l'industrie, ce sont des processus de transformation, mais l'industrie actuelle est en train de se couper du monde alors qu'elle le transforme. Les artistes aussi sont en train de se couper du monde. Il faut que les artistes et les industriels se rapprochent pour renouer avec le monde et pour inventer un nouveau monde industriel. Et ça, c'est l'Europe qui doit mettre ça au cœur de son politique. Il faut le faire avec les designers. Pourquoi? Parce que le design a été conçu, disons, entre 1905, la volonté d'une sorte de production du design. Un design pas encore pensé comme tel, par forme, c'est 1907 la volonté. Et le Bauhaus, c'est-à-dire les années 20, en Allemagne de Weimar, la République de Weimar. Comment est-ce que ce design est né à la fois l'initiative d'un industriel, d'un ensemble industriel américain et allemand, et en même temps l'initiative d'artistes qui se sont dit, il faut maintenant que nous transformions le monde, que nous rapprochions de l'industrie. Le problème, c'est qu'ils ont pensé cela dans une séquence industrielle qui consistait à poser qu'il y a d'abord en industrie des gens qui font de la recherche fondamentale. Ensuite, cette recherche fondamentale, on cherche un domaine d'application, donc on appelle ça la recherche appliquée. Ensuite, on fait du transfert de technologie vers les entreprises, et ça devient de la recherche-développement. Puis cette recherche-développement, elle va vers la production, c'est-à-dire des ingénieurs de la productique, de la chaîne de production. Puis on se tourne vers le marketing, et puis le marketing se tourne vers le design, ou le stylisme. Et puis finalement, on va vers un distributeur et ça arrive chez le consommateur. C'est une séquence linéaire qui a été conçue au début du XXe siècle, dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle division industrielle du travail, intégrant la question de la conception, du design, etc. Et c'est une séquence linéaire, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la recherche, ensuite le développement, ensuite, etc., et finalement le consommateur, qui lui n'est qu'une espèce de benêt qui va uniquement pour faire ce qu'on lui a dit, et de se soumettre à cette séquence. Et il est exclu du processus de conception. Eh bien aujourd'hui, les gens ne veulent plus de ça. Et moi j'ai essayé de convaincre mes étudiants des arts décoratifs l'année dernière de me dire qu'il fallait redesigner le design. Et de faire en sorte que les designers, cette fois-ci, ne soient plus ceux qui pensent à la place des autres, mais ceux qui pensent des processus d'individuation collective, c'est-à-dire qui donnent les moyens aux autres de penser ensemble. Et que ça suppose évidemment ce qu'on appellerait dans le monde actuel du social engineering, c'est-à-dire de l'ingénierie sociale qui permet de industriellement produire de nouveaux processus d'individuation. Je pense que l'Europe peut faire ça. La diversité extraordinaire qu'il y a entre la Turquie, et moi je suis pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe, pas tout de suite, mais bientôt. Les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est, les pays latins, l'Europe du Nord, protestante, la singularité de l'Angleterre, et tout ça. Évidemment, l'héritage culturel de l'Italie, absolument extraordinaire, avec l'Espagne. Tout ça est une possibilité extraordinaire de réactiver un processus d'intégration, mais à condition non pas de faire une politique culturelle du 1% culturel, mais de mettre ça au cœur d'une politique industrielle. Et en essayant d'inventer un nouveau modèle industriel. Alors, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire, je crois que l'heure tourne, il faut que je laisse la parole à Mélibor, je n'ai pas du tout fini mon propos, mais ce n'est pas très grave, dans l'occasion de discuter, je pourrais préciser un peu éventuellement mes idées à l'occasion de l'intervention de Mélibor, de ce que j'aurais à dire dessus et de vos questions. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais vous céder la parole à Justine.